Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na mali sina we. Zasumbua roho yangu,
Radio, c'est Radio Gala, l'émission Livres et Amis du mercredi 4 février. Mars, oh là là. Quelques nouvelles prises sur l'agenda de Mille Babord. Pas mal de choses cet après-midi. D'abord à la MMDA, 39 cours Julien, à 15h, la permanence RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Ensuite, à 17h, ça se passe à la cantine Coco Velden, et le titre de la prestation, c'est Louise Michel et le cœur Kabyle, et c'est le collectif Manifesterien qui nous informe de cette initiative-là. Passons, c'est pas tout pour ceux qui sont déportés, ceux qui bougent, à 18h30, local migrant, c'est 8 rue Barthélémy, et c'est une information du collectif El Mamba, une soirée consacrée à l'aide aux migrants. Passons à jeudi, 10h, permanence RUSF, c'est-à-dire Réseau Universitaire Sans Frontières, ça va, on dirait que RUSF s'agrandit. Et puis, ça fait une antenne de plus. Et c'est ils ont eu une permanence à 10h à la Maison méditerranéenne des droits de l'homme, 39 cours Julien, je répète. Voilà, pour ce qui est des migrants. Et demain jeudi, 10h30, alors c'est la grande annonce de la semaine, hein, grève et manifestation, appel intersyndical. Je n'insiste pas plus, vous êtes sûrement tous au courant. Et toujours jeudi, c'est à l'espace Coco Velden, rue Bernard Dubois, récit et portrait de militantes issues de l'immigration. Et l'association Ancrage qui nous invite à une autre, mais j'ai oublié. Et voilà.
Et il y a deux jours à l'îlot Velten, ouais, sur les femmes, aujourd'hui et demain.
Ouais. Heureusement qu'on a des informations en plus. Je ne sais pas si c'est Coco Velten encore. Ravensbrück, la force des femmes, c'est le MRAP et femmes solidaires. Oui, c'est certainement dans les deux journées des femmes que tu annonces là. Et vendredi, 18h30, soirée organisé par le collectif 59 Saint-Just, mais ça se passe à Saint-Just, ça se passe à l'espace musical Hyperion, 2 bis avenue Maréchal Foch. Toujours vendredi à 19h, librairie Transit, Ennemi mortel, un spécialiste de l'Algérie viendra parler de ce qui se passe Et les derniers, notamment ces derniers temps, mais aussi pendant la décennie tragique et même avant. Ensuite, 18h30, à Mille Babor, 61 rue Consola, mise en place du Code de la famille et la lutte des femmes algériennes. Deux intervenants d'origine algérienne, un avocat et une militante algérienne du droit des femmes viendront nous parler. Maintenant, quelques informations sur des livres. Hein? Alors, non, c'est la Amine des Mistards. J'ai dit, c'est un peu compliqué, mais je le note quand même. Hein. Le titre du livre, c'est « Et tournera la roue ». C'est aux éditions Emmanuel Collat. Et c'est une série de nouvelles kurdes. C'est un gros livre. Il a 536 pages, mais il doit valoir le coup. Enfin, deuxième information, Lucien Descours, Philibon, Vieux de la Vieille. C'est le Vieux de la Vieille, ben ce sont des communards. Et c'est publié à La Découverte. C'est tout récent, hein, Paris 2019. D'ailleurs, tous ceux dont je parle là, ce sont des livres qui sont parus récemment. Enfin, Nanni Balestrini, il est bien connu. Les Invisibles, c'est l'édition Le Monde à l'envers. Et c'est à Grenoble que ça se passe. 336 pages aussi, décidément, c'est des gros livres que j'indique, 18 euros. Et enfin, Didier Daeninx, Le roman noir de l'histoire, c'est 19 euros. Et c'est paru pareil en 2019, l'édition Verdier-Lagrange. Voilà, roman noir de l'histoire, ça ne doit pas être piqué des vers. Enfin, récemment aussi, la semaine précédente, La carte des regrets chez Grasset de Nathalie Kovronek, je vais y arriver, et c'est l'itinéraire de gens qui se rencontrent mais qui regrettent, il y a un triple personnage principal, la mère, la fille et l'amant. Voilà. Autre titre, de Eliette Abécassis, nos rendez-vous chez Grasset, 162 pages, 16 euros. Hein, nos rendez-vous, c'était sur toute une vie, des rendez-vous avec un homme avec qui jamais elle ne vivra. Mais on voit comment se nouent des relations qui sont des relations profondes et intéressantes. Cécile Coulon. Noir Volcan, le Noir Volcan, ben, s'il s'agit de Clermont-Ferrand, édition Le Castor Astral. Et il faut. Je retiens une citation. Il faut. Il faut Clermont-Ferrand. C'est sur Clermont-Ferrand, oui, il faut se méfier des phrases simples. Ah. Alors, vous êtes avertis si vous avez choisi ce livre, 160 pages, 15 euros. Enfin, dernier livre, là, je pense que vous allez l'avoir en lecture ici, c'est le dernier livre d'Alain Mabankou, 8 leçons sur l'Afrique, paru chez Grasset, 218 pages et 19 euros. Voilà pour les nouvelles et on va tout de suite vous présenter Christophe Tarkos, Le Petit Bidon et autres textes. Le Petit Bidon, on se demande ce que ça peut bien être. Eh bien vous allez voir, c'est un objet visuel, c'est un bidon qui contient de l'huile. Je n'ai pas pu comprendre si c'était de l'huile de cuisine ou de l'huile de voiture. Mais parlons plutôt de Christophe Tarkos. Le livre est paru, c'est-à-dire au début, aux éditions POL. Alors, ces éditions sont très intéressantes, hein. POL, c'est Paul, ce sont les initiales de Paul Otsakowski Laurence. Il est mort il y a un an. Sa mort a fait beaucoup de bruit parce qu'il est décédé à 73 ans dans un accident de voiture un peu avant de fêter le cinquantenaire de cette élection. Cette édition a été fondée en 83 et elle a la réputation bien méritée d'être des découvreurs extraordinaires, les meilleurs, selon Marie Dariussec, des nouveaux talents. Et Ils ont eu de grandes difficultés. J'ai entendu une interview de ce Paul Ostrakowski disant qu'il y avait eu de grandes difficultés et qu'en même temps que les difficultés qu'ils avaient surmontées tant bien que mal, eh bien, les éditions Gallimard prenaient de plus en plus d'importance dans le conseil d'administration, 88%. Voilà les aléas des grands découvreurs de talent. En ce qui concerne Christophe Tarkos, ce petit livre est un livre qui est récemment paru en 2020 et qui est fait d'une sorte d'anthologie de ses meilleurs morceaux, puisque Christophe Tarkos est mort en 2004 et il a commencé d'écrire et d'être connu vraiment en 90. Ce qui le caractérise, c'est que pour lui, la poésie, c'est pas un texte. Voilà, alors je me suis dit, oulala, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive d'avoir pris ça, on va voir ce que vous en pensez. C'est pas un texte, c'est une action. Et il a inauguré le fait que les poètes descendent de leur cercle habituel et aillent vers le public. Et il fait ce qu'il s'appelle des performances, c'est-à-dire qu'il arrive à lire. À dire sans lire, justement, c'est pas comme nous, et des textes avec une performance de mémoire extraordinaire, et puis il accompagne son récit de gestes. La préface du livre est signée de Nathalie Quintal, qui était un professeur de lettres de métier, mais qui fait partie des amis de Christophe Tarkos, et elle dit qu'il se peint comme un solitaire, mais en fait, il avait beaucoup de monde autour de lui. C'était son groupe qui soutenait sa poésie, je répète, une poésie, vous allez entendre, d'avant-garde. Et tout de suite, vous allez avoir deux brèves lectures tirées justement de l'introduction de Nathalie. C'est page 14.
La guerre, donc. Au début des années 1990, quand Tarkos commence à écrire et publier sous le nom de Tarkos, c'est officiellement la paix. Plus d'avant-garde, plus de manifestes, plus d'écoles, plus de divisions, plus tellement de théoriciens, c'est dégonflé. On en entend encore les soupirs de soulagement. On est dans un monde et un moment sympa où tout le monde cuisine et graillonne dans son coin. Des revues pourtant sont là, encore, pour transmettre ou repêcher ceux qui revitaliseraient. Java, Gnoc, Dox, Cadio, Manuel Joseph et Cathy Molnar chez POL, les débuts d'Al Dante à Marseille, maison d'édition qui va publier les premiers livres de Philippe Beck, des Tarkos, des Penquin, Fiat, Chaton, Bérard, Maestri, Sivan, Espitalier, la sortie des deux numéros de la revue de littérature générale, Alféri Cadio, entre autres et bien d'autres, signe la fin de la pacification et d'une façon la restauration progressivement installée depuis les années 1980.
Alors, à remarquer, quand il intitule son texte « La guerre », on se dit « Ah bon, quelle guerre ?» En 90, c'est l'Irak. Ah mais non, pas du tout, c'est la guerre entre les écoles de littérature. Et puis, il parle des manifestes, et c'est le monde, c'est un monde assez clos, littéraire, qui vous est ouvert aujourd'hui. Alors, remarquez aussi, il se produit au Centre Pompidou, et il s'est produit aussi au Centre international de poésie de Marseille. Je me souviens que j'étais allée une fois, je me suis dit, voilà, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'étais intéressée par l'Afrique à ce moment-là, et par la décolonisation. Et donc, c'est à Marseille qu'on vous ramène, c'est le moment où il écrit ses lettres, où il écrit ses textes, et ces textes sont de caractères très différents, vous allez entendre. Et on va voir comment il traite le langage. Il y a une façon de traiter le langage, page 15, bien à lui.
Patmos. Pour Tarkos, la poésie détestable, celle qui désamorce ses poèmes, ses performances, la désigne en creux sans avoir à la nommer. Connaître ce qui est de la poésie pour pouvoir prendre tout ce qui n'est pas de la poésie, écrit-il. L'une de ces batailles, la lutte contre les noms qui mentent et donnent l'illusion de cacher derrière eux des entités réelles, comme le mot « mot ». Il n'y a pas de mot, il y a une pâte mot, une chose élastique qui pèse, s'étire et se contracte, indistinctement son et sens, une positivité totalement molle, qui bouge très très peu et très doucement. Pâte mot permet de sortir du vieux schéma de la forme et du fond. C'est une nappe où tout peut arriver de tous côtés, qui rappelle les boules de Jean-Luc Parent. Elles n'ont ni dessus, ni dessous, ni côté, ni sens. Pâte mot est chose et chair. Elle est corporelle et matérielle. En tout état de cause, l'adversaire, c'est le mensonge. C'est le mensonge qui rend l'homme malade. De cette maladie, de l'expression que l'anthropologue Marcel Jousse nommait algébrose. La haine de l'algébrose est la haine farouche de tout ce qui n'est pas pleinement incarné, senti, pensé. Jugez de la pauvre géométrie qu'on ferait en parlant seulement de barres et de ronds. Or, dans la science de l'homme, nous en sommes encore bien souvent à la terminologie des barres et des ronds, écrit-il dans « Le parlant, la parole et le souffle ». Les textes de Tarkos ne cessent tout ensemble de rappeler le mensonge et de le combattre, souvent avec beaucoup de drôlerie, de sens de l'absurde. On glisse d'un registre à l'autre, du comique au tragique, comme on glisse d'un son à l'autre, retenu par et poussé dans la viscosité de la pâte mot. Mais l'humour est violent. Le verbe n'est pas seulement corporel. Il est comme un coup de feu. Tarkos, dont l'un des livres porte le titre P.A.N., Pan, ne fait pas seulement ici une allusion aux dieux de la mythologie et aux avant-gardes historiques, dada ou surréalisme. La relation est faite comme ça. La symétrie, c'est entre un qui a le pistolet et un qui n'a pas de pistolet. C'est ça la relation. En écrivant aux côtés des sans-papiers, parmi les pauvres et les marginaux auxquels il se sentait appartenir, Tarkos était avec ceux qui ne tenaient pas le pistolet social, mais qui parfois se révoltent et font alors preuve d'une inventivité et d'une joie sidérante. Nathalie Quintane.
Voilà. Alors, le livre se présente donc comme un recueil de 27 poèmes. Et les derniers des poèmes sont un peu plus longs, vous allez l'entendre. Il fait, et on, après avoir entendu Nathalie Quintane, le... Il est utile que l'auteur se présente lui-même, page 23.
Nom Tarkos, prénom Christophe, date et lieu de naissance, 15 septembre 1964, Marseille. Vie et travail à Marseille, 15 place de l'Anche, 13002, Marseille. Moi, je suis une personne équilibrée, autonome, assise. Je lis des textes, je réécris des textes, je suis une personne adulte, intelligente et sérieuse. Je suis un homme d'une trentaine d'années. Je suis une personne non violente, pacifique, pacifiée, en paix. Je suis une personne installée dans les courants de pensée. Je regarde les images. Je suis bien élevé et poli et courtois. Je suis humain et bon et appliqué. Je suis une personne de cœur. Moi, je suis de gauche, je suis athée. Je suis marxiste. Je respecte la tradition de la révolution culturelle. Je suis lisboète et maltais et grec. Je suis pour l'avant-garde. J'ai fait mes études de théologie à Paris. Je parle en français. Je possède un dictionnaire de français. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis dans la vicissitude. Je suis affilié, j'adhère, je suis pour. Je suis pour l'OM, pour Blaine, pour Milan. Je suis pour. Je milite. Je suis pour la participation. Je participe. Je suis pour. Je travaille pour.
Voilà. Il y a celui qui est contre, celui qui est pour. Et il se moque là des distinctions qu'on fait très inopportunes. Entre, vous êtes toujours contre, il faudrait quand même être pour. il s'en amuse. On sent là une évolution dans ce qu'il est. Et avec toujours cette espèce de bascule et de, comment dire, d'indécision qui est la sienne entre justement l'inspiration uniquement surréaliste et l'inspiration sociale. Et ça se voit dans les revues auxquelles il a collaboré, FRS avec justement Nathalie Cantan, qui insiste sur sa solidarité avec les sans-papiers et avec les travailleurs. Puis ensuite, c'est avec Catalina Monard. Et enfin, la revue Poésie, avec un Z, prolétaire, T et accent grave R-E, un seul exemplaire. Mais certainement, c'est ce qui est dit dans Wikipédia, une influence certaine. Et tout de suite, le premier texte qui donne son titre au recueil, c'est « Le petit bidon ».
Page 31. « Il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon, qui est posé sur la table et qui ne bouge pas. Il y a des événements de l'air qui bouge et qui va taper contre le haut du bidon, si c'est le haut du bidon qui est le plus chaud, et si c'est le bas du bidon qui est le plus froid, alors l'air va taper contre le haut du bidon et en tapant va rebondir et va faire un tourbillon, et le tourbillon va redescendre, et il y a encore un autre tourbillon qui va remonter de dessous une fois que le tourbillon va descendre. Il y a beaucoup d'air, il y a de l'air, c'est normal qu'il y ait de l'air dedans le bidon qui est fermé. Il y a de l'air qui bouge, il y a des mouvements, il y a des bouffées d'air qui bougent et qui rebondissent, qui se cognent, ça se cogne beaucoup dedans le bidon. Quand on regarde le bidon de l'extérieur, comme ça, on voit sur la table, on voit juste un petit bidon en métal, tout fermé, tout simple, un petit bidon simple qui déborde pas, qui reste à sa place, qui bouge pas, qui n'a rien pour lui, il est juste un petit bidon en métal, il est juste du métal qui est fermé avec un bouchon, c'est un petit bidon avec un bouchon, il est bien fermé, il ne bouge pas, il est gentil, il est stable, il reste là où il est. Quand on regarde sur la table, il n'y a absolument rien d'autre qu'un petit bidon. On regarde sur la table, on regarde en dessous de la table, il n'y a rien d'autre qu'un petit bidon posé sur la table. Ça n'est pas une grosse masse blanche qui vient déborder et qui est partout, partout, partout sur la table, dessus la table, autour de la table, autour du bidon, qui mange le bidon. Il ne se fait pas manger le bidon, il est tout seul, il est posé, il est stable. Et il ne se fait pas manger, il résiste, il tient, il a de la tenue, il résiste bien, il résiste à tout, il ne bouge pas, il n'a pas bougé, il ne va pas bouger, c'est un petit bidon qui est posé sur la table. On a de la chance d'avoir un petit bidon posé sur la table. Merci le petit bidon, merci le petit bidon.
Comme je vous disais, un bidon qui est en métal, on se dit qu'il contient de l'huile de vidange. Et puis non, il a un bouchon. Et c'est un bidon qui a bien sa place dans la cuisine. À partir de cet objet usuel, on voit là le mouvement général de cette poésie. Eh bien, il y a tout un monde, parce qu'il y a même le monde du vent. Et des courants qui se font, et même peut-être du tsunami avec ce retour du fond de l'eau. Et ce texte est un texte qui est retransmis. C'est pas lui qui l'a écrit, il voulait pas écrire, il avait préféré il a écrit que sur la fin de sa vie quand il était malade. Et c'est la retranscription donc d'une performance qu'il a faite au Centre Pompidou et qui a été faite après coup. Et là, j'ai oublié la date de la performance, tant pis. Au même moment, un autre texte aussi qui avait beaucoup parlé de lui, c'est « Je gonfle », page 33.
Je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Sur la plage, des fois, on voit passer des gens. Alors c'est bizarre. Je gonfle depuis 30 ans. Et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite.
Alors, il faut vous dire qu'il y a des passages dans le texte qui sont marqués de petits tirets. Et quand on le voit, parce qu'il y a des images, eh bien on voit qu'il il fait le bruit qu'on fait quand on gonfle un matelas pneumatique. Et alors c'est là aussi, hein, il donne toute son importance au corps humain. Et il s'est produit là dans une soirée qui s'appelle une soirée hiatus à Caen. En 98, même genre de transfiguration de réalité, mais alors dans un pas du tout dans le motif, dans le mode il n'aime pas l'ironie, pas du tout dans le mode humoristique, mais dans le mode de surgissement de l'horreur. C'est le bonhomme de merde, page 38.
Alors voilà. J'ai rencontré une personne qui est un homme de merde. Il est tout à fait de merde. Il me regarde avec des yeux de merde. Des yeux un peu marrons. Parce que l'eau de ses yeux de merde, c'est de l'eau marron. De merde. Et toute sa peau est faite de merde. Et quand il parle, il ouvre sa bouche. Et je vois sa langue, qui est une longue langue de merde, avec des gencives un peu baveuses de merde. Et j'ai regardé ses dents, qui sont des dents très dures, mais c'est de la merde très dure, qui a beaucoup séché et qui est très dure. Mais ce sont des dents de merde aussi. Et ses lèvres qui bougeaient bien, normalement, c'était de la merde plus molle. Il arrivait à déplacer ses lèvres un peu molles, de merde molle, de façon normale. Et on voyait bien à ses mains, de longues mains, de longs doigts de merde, aussi, avec la paume des mains de merde, de la merde un peu plus claire, et le dessus de la main, de la merde plus foncée, et toute sa bouche de merde un peu plus rouge que sa peau d'une couleur de merde, assez conforme et unilatérale. Et je crois qu'il avait une cervelle plissée, dense, très serrée, avec des plis et des sillons qui étaient aussi, j'en suis sûre, une cervelle faite de merde. Mais de merde serrée avec des sillons, des rigoles dessus. Alors je me suis dit, cet homme-là, il a une grande quantité de sortes de merde en lui. Il doit avoir des merdes plus dures que d'autres pour se tenir bien debout. Et il doit avoir des merdes plus molles aussi, à certains endroits, comme je l'ai dit tout à l'heure, la langue, ou les yeux, ou l'intérieur du corps. Parce que son corps, ça doit être, son cœur, ça doit être de la merde aussi. Et puis, le jus qui sort du cœur aussi, ça doit être un jus de marron, marronasse. Un jus marronasse. Un jus comme il en sort, en même temps que la merde. Un jus merdeux. Qui devait couler dans ses veines. Ses veines un peu plus consistantes, ses veines de merde. Et je me suis dit, tiens, je crois que je suis en train de voir là devant moi, c'est un homme de merde, peut-être c'est lui le bonhomme de merde. Je me suis dit, voilà, enfin je l'ai trouvé, c'est lui le bonhomme de merde. On le cherchait depuis très longtemps. Puis mon bonhomme de merde, alors que je croyais le tenir, avec toutes ses qualités et ses défauts et ses merdes dures et sèches, ses merdes un peu molles, un peu plus molles, et même ses merdes totalement liquides qui coulaient dans son corps, de ses yeux aussi, ça coulait de ses yeux. D'un coup, mon bonhomme de merde, il est parti. Il a fait enfin... D'un coup, il n'était plus là, devant moi. Parce qu'il a, ça a fait un grand bruit et il a disparu totalement. On le voyait plus du tout. Voilà, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Il était là devant moi, tranquillement. Il se tourne et allume un pétard au sol. Et ça a fait ça,
On entend de grands applaudissements après sa performance. Et pour souligner ça, Sidi va nous mettre de la musique de ces années-là. C'est Christophe Tarkos, Le Petit Bidon, et autres textes. Nathalie Cattal, dans son introduction à cette anthologie, dit qu'il était du côté des barges, comme il dit, mais du côté aussi des travailleurs migrants et du côté des ouvriers. Et c'est ainsi que dans le poème qui s'appelle « Ouvrier vivant », j'appelle ça un poème, hein, mais on ne sait pas si c'est de la prose poétique ou bien un amusement. On va voir avec le texte suivant. C'est ce qu'il dit du droit. Page 46.
Le droit ne couvre pas le monde. Le monde déborde de ce que le droit en jeu joue. C'est un peu plus grand, passe par les trous du droit. Le droit joue, articule, sait articuler, articule jusqu'à l'absurde. Le droit n'est pas clair avec le droit. Le droit trouve des règles introuvables, contradictoires, des règles pour ne pas pouvoir répondre aux règles, des règles pour se retrouver devant une impasse et ne pas pouvoir passer. Dans les trous du droit, la légère poussée des voies de fait, des faits, des ces faits pour pousser à la faute. Le droit a des trous qui ne voient pas l'homme vivant. Le droit oublie, le droit ne voit pas. Le droit apporte des collections de papiers couverts de signes, signature, marque de tampon. Le droit est bizarre, est pervers, est mensonger. Les institutions des administrations n'appliquent pas le droit, ne veulent pas appliquer le droit, inventent le droit par les faits. J'amène mes fiches de paye, j'amène ma déclaration d'impôt, j'amène mon courrier et mes quittances de loyer, j'amène le papier qui prouve que j'ai été détenu, j'amène le visa de 6 mois, j'amène mon passeport. J'amène mon acte de naissance, j'amène la convocation, j'amène la facture de téléphone et la facture de l'électricité. J'amène 4 photos d'identité, j'amène la preuve d'un dépôt de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. J'amène 3 relevés de notes de mes études anciennes, j'amène un certificat médico-légal de l'hôpital de Lyon, j'amène la décision de rejet de l'OFPRA. J'amène un certificat de mariage. J'amène une attestation d'hébergement. J'amène les enveloppes du courrier que j'ai reçu à mon domicile depuis des années.
Voilà comment il montre que les lois, elles sont vraiment pas adaptées à la réalité, qui est la réalité de l'humain. Ce texte, paru chez Paul tout récemment, hein, Et il a été lu pour la première fois dans la librairie Clara Vinci. C'est une librairie à Caen et il date, comme le précédent, de 98. Et maintenant, on va passer à un plan plus littéraire, mais toujours orienté vers la marge. C'est Patmo. Dans Patmo, il y a Patmo qu'on connaît déjà, P-A-T-M-O, et puis il y a Patmo. Voilà.
Patmo est la substance. Et la substance de mots assez engluée pour vouloir dire. On peut se déplacer dans Patmo comme dans une compote. Patmo est une substance dont on peut mettre à plat la substance. On peut aussi la mettre pas à plat, en bosse, en faire de la neige et en faire des nuages. Il y a un certain nombre de composés qui peuvent être mis en tas. La compote, la neige, les nuages, la merde, la confiture et le mélange de ces composés entre eux. E est Patmo, E est heureux, E voit, E peuvent prendre place. Il y en a tout un tas. Il n'y a pas de loi. Les lois ne se sont pas en cohérence. Les lois sont molles. Les lois ont fait face aux plus pressés. On est pressé. Les ennemis sont partout. Le droit est mou, ne s'applique pas, n'arrive pas à appliquer. La bosse de la vie est inapplicable. Le droit n'est pas la bonne application de Patmo. Le droit est aussi malaxé, aussi rapide, aussi pressé, aussi mou que Patmo. On est trop pressé pour atteindre à l'ordonnancement.
Alors, là, remarquez ce mot là, par lequel il termine. Il n'aime pas les belles feuilles comme on aime dans les fameux sonnets de la littérature classique. Mais l'ordonnancement, il sonne bien. Et ce n'est pas l'ordre. C'est une certaine façon de s'organiser harmonieusement, dont il rêve bien sûr avec Patmo. Qu'est-ce qu'on voit? C'est d'abord son rapport à la langue. C'est une pâte, donc il la malaxe, il l'étire, il en fait un peu ce qu'il veut. Et son rapport au langage est un rapport qui est un rapport de domination et puis d'ironie. On en fait ce qu'on veut. C'est pas quelqu'un qui est amoureux de la langue, comme on voit par exemple dans les dictionnaires qui viennent de sortir, le dictionnaire amoureux de la langue française. Non, lui, c'est pas ça du tout. Il prend les mots et il les secoue et il voit ce qu'il en résulte. Et son rapport aux mots, en fait, c'est son rapport à la vie aussi. Il veut être libre et il se présente dans la vie comme quelqu'un qui veut tout changer. Mais tout changé par la poésie. Et on va voir comment on va voir apparaître son thème avec les nuages. C'est un grand thème, le thème du blanc. Ça fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle les nuages. Et là, mon passage, c'est à l'intérieur de ce grand ensemble, c'est les enfants.
Quelle page, s'il te plaît?
Page 94.
Les enfants sont seuls avec des enfants, soudainement, s'aiment, font l'amour, ils ne disent rien, ils flottent dans le ciel, ne font aucun bruit, c'est parce qu'on est avec le temps qu'on veut mourir, quand une masse nuageuse est repoussée, une autre masse nuageuse vient la recouvrir, le seul plaisir est celui de penser, se sont rencontrés, se sont connus, les enfants s'aiment, se connaissent et se font l'amour. Tulle a reformé à partir du « c'est passé », le passage de nuages qui se forment. Le lendemain, ils ne sont plus les mêmes, ils se déplacent, les nuages sont doux, ils sont partis, ils sont détruits, ils sont en poudre. La poudre ne va pas loin, s'élargit. Les enfants qui vont faire l'amour vont commencer, feront la première fois, commencent le chemin, entraînent le chemin. D'un coup, de lumière s'allume, d'un coup, la lumière s'allume, se déséclaire, la tache blanche s'élargit, sont partout où l'on regarde, sont difficiles à regarder, sont blancs clairs, ils sont lumineux, d'un blanc dispersé, sont partout. Il n'y a pas de représentation de nuages, ils sont là, ils sont toujours là, il n'y a qu'à lever les yeux pour savoir les nuages, l'endroit où le nuage a laissé de la place au bleu d'un ciel sans nuages, à l'endroit de ce qui est passé, où le temps est passé lentement en bulle, en boucle, les nuages sont beaux, presque rien n'a changé. Ce qui change au passage des nuages est infiniment petit. Les nuages passent à travers les montagnes, ne touchent pas terre, passent sans s'abîmer. Les nuages traînent dans le ciel. Ils n'abîment pas le ciel dans lequel ils traînent. Ils ne s'abîment pas. Ils ne diminuent pas. Ils ne font que passer. Pas un ne disparaît. Les nuages sont partout, n'ont pas de représentation. Il y en a partout. Pour voir, avoir l'image des nuages dans les yeux. Il suffit de lever les yeux, il suffit de baisser les yeux vers le ciel. Il y a là des nuages qui flottent, n'ont pas d'image. Les nuages sont sous les yeux. Pour voir un nuage, il suffit de regarder. Un nuage vient sous les yeux. Ce sont des bandes, des nuées, des bandelettes, des bancs épars. C'est le corps des enfants qui s'est formé, qui est formé, qui s'est tendu. Voilà, tout le corps de l'enfant qui est formé, qui est en train de pousser, qui change, qui a changé. Les seins poussent, les couilles poussent, montent. Les nuages sont douloureux à regarder, tellement ils sont lumineux. Les blancs dispersés, partout des taches lumineuses blanches, où l'on regarde dans le ciel, sont trop lumineux pour les regarder. Pour s'approcher, ils ne se donnent pas rendez-vous, ils s'approchent. Ils sont l'un pour l'autre, comme s'ils savaient qu'ils étaient depuis toujours l'un pour l'autre. Pendant qu'on regarde le vide blanc d'une masse de nuages qui passe lentement, le temps passe. Un arbre de la forme d'un arbre, au milieu d'un pré, une ligne touffue, haute, de la largeur d'un chemin, quatre chevaux, un cheval, un bois d'arbres à long tronc nu, une rivière, un fleuve, deux arbres plus longs que les autres arbres, devant la forêt de un bois à long tronc nu, un arbre plus long, deux chevaux, une série d'arbres sur un chemin, un arbre de la forme d'un arbre large, un chemin, quatre arbres au tronc rapproché, un groupe de vaches blanches, un arbre au tronc blanc, un champ, un groupe d'arbres, deux maisons, un champ, une rangée d'arbustes, un champ, une clôture de buissons, une traînée de buissons, des champs, un arbre au milieu d'une rangée de buissons, un bois sur le flanc d'une colline, un mont couvert d'une frondaison verte, une colline boisée, recouverte, un champ vert, un champ marron, au milieu des arbres de la même hauteur, puis des arbres plus petits, trois arbres sans tronc, des arbres avec de longs troncs fins, des lignes de troncs, des herbes, des buissons et des herbes, un arbre seul, long, un arbre en boule, des champs, une rangée de quatre arbres hauts, puis de quatre arbres boules, un bois d'arbres verts dans un champ, quatre arbres longs, une forêt, un cours d'eau, une colline boisée, un arbre de la forme de l'arbre, un groupe de vaches blanches, des arbres disséminés, une colline boisée, un champ rouille, trois arbres aux frondaisons rabaissées, un arbre aux branches levées, un arbre aux branches en étoile, un arbre aux branches vers le haut, un massif de sapins, un arbre transparent avec des boules, deux arbres dont un déformé, irrégulier, un arbre à double frondaison, une frondaison puis plus haut, une autre frondaison, des arbres disséminés, un arbre avec des branches en l'air, un chemin, un groupe de vaches blanches, trois arbres, un arbre très petit, sans feuilles, des branches en étoile, un bois d'arbres à tronc blanc, des vaches marrons, un arbre sans feuilles, un bois, un chemin, une clôture, une vache, une voiture, une bordure de buissons, quatre arbres, un cours d'eau, des prés, des arbres, des vaches, des herbes hautes au milieu d'un pré, un arbre, les branches levées, un grand champ, des arbres dispersés, une rangée d'arbres sur la berge, un fleuve, un bateau, un arbre seul, un carré d'arbuste, un arbre de la forme d'un arbre de petite taille, quatre arbres longs, trois arbres longs, une rangée de pylônes, une rangée d'arbres qui descend dans le pli sinueux d'une rivière, une rangée continue, une route, une rangée verte le long de la route, des fêtes, un grand arbre et un petit, un bois à tronc nu, à feuilles noires, une voie ferrée.
Voilà, c'est un... Ce grand poème annonce la série qui ne fait pas partie du recueil Le Petit Bidon, avec la façon de nous faire basculer d'un monde à un autre sans arrêt. Ça donne le vertige quand on voit les yeux à travers les nuages blancs, qu'on lève un peu les yeux pour regarder le nuage blanc. Et bien, il nous en arrive de toutes les couleurs et on se dit que peut-être il se manque de nous, hein, parce que les enfants, c'est... On se dit, oh, c'est pas les enfants, c'est aussi bien les adultes. Il dit qu'il faut toujours garder son âme d'enfant, c'est connu, c'est un thème classique de la poésie. Et puis ensuite, ces enfants, ben, on croit que c'est les adultes, mais ils reviennent enfants, on les voit sortir de leur mère, on les voit grandir. Et puis ensuite, ça se change en paysage. Et c'est tout un paysage qui apparaît avec cette figure de l'arbre. L'arbre, c'est un symbole de l'homme. Et on voit là comment, à travers ce nuage blanc et cette lumière aveuglante, tout se transforme en vision. Et c'est un voyant. Rimbaud disait, le poète est un voyant. Il n'aimerait pas être l'élève de Rimbaud parce qu'il est trop occupé à être original. Mais n'empêche qu'on revoit bien ce thème du voyant qui réapparaît un demi-siècle plus tard. Et puis, on va voir apparaître cette couleur blanche, elle apparaît, c'est un des thèmes du recueil, et elle apparaît notamment, si vous vous en souvenez, dans Le Petit Bidon, le livre qui ouvre le recueil, et il dit, c'est une petite bouteille, et qu'il n'y a pas de blanc sur la table, le blanc qui déborde, qui remplit tout. Et ça m'a fait penser, comme on est dans une cuisine, au lait qui déborde. Et là, ce blanc, c'est encore un blanc, mais qui introduit dans une espèce de vision. On va voir apparaître un autre thème surréaliste avec le train. Le train, c'est un grand poème. J'en ai tiré trois petits extraits. On pourra peut-être pas tous vous les lire. Et on voit apparaître un thème qui est le thème de la mort. Le train, chez les surréalistes, c'est le signal de la mort. Page 116.
Allons, page 116. Train court, train long, train arrêtera de rouler. Je ne m'étonne pas, cela ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas de ne pas avoir d'étonnement. Je ne suis pas étonnée, je ne filtre pas. Rien n'est filtré d'ici là. Alors cela ne m'étonne pas, je ne vais pas faire l'étonnée. Cela ne m'étonnerait pas, je ne filtre. Le train passe. La force articulée tracte la carcasse, la puissance d'articulation des rails. Daignes-tu emporter un peu de moi ? Et je daigne. Daignes-tu prendre avec moi le peu de ce meuleux ? Et si je n'ai pas à daigner, et je veux bien daigner, et je daigne si je veux. Je ne vois pas pourquoi je m'emporterai avec moi, si je n'ai pas à daigner. Ce n'est pas emporter dans qu'en parler. Je me parle quand je veux. Je ne m'emporterai pas, je m'envoie balader. Le train freine. Flâner n'empêche pas de voir venir par la fenêtre, n'empêche de venir en dessous, sous les barrières, de voir sous la voie, sous les rideaux, de voir venir des mâts, des fleurs, des champs, des lignes, ni de voir, ni de se voir, ni d'avoir le plafond. Le train traîne, trotte, trottine. Je ne déforme pas. Je ne me déforme pas. Cela n'a pas eu l'effet de me déformer. Je ne me suis pas déformée sous les effets. Je ne me déforme pas. J'ai la forme que j'ai. Elle ne se déforme pas sous l'effet du non-mouvement de mes hanches et de mes jambes, sous l'effet du mouvement de ma nuque. Cela est une bonne chose. Je n'ai pas la peau des joues qui se déforment, déformée sous l'effet des déformations, des sustentations des endroits en pente. C'est bien. Ce n'est pas déplacé, je reste entier, c'est heureux. Le train de rame glisse sur les rails. Je ne m'ameute pas, je n'ameute pas. À quel moment je m'ameuterai ? Je serai prêt. Au moment où nous nous ameuterons, il faudra s'ameuter. Mais pour le moment, il n'y a pas à s'appeler, je n'ai pas entendu l'appel. Je ne me rameute pas pour l'instant, je me laisse vivre, je n'entends pas. Il n'est pas temps d'ameuter. Je ne vois pas le moment venir, ni que je me mette à ameuter à tort et à travers. Je ne m'ameute pas. Trois sortes de moteurs à train. Je ne suis pas médisant. Je ne dis pas que je ne sais pas. Je ne fais pas une niche. Je ne feins pas. Je ne feignais pas. Je n'ai pas utilisé « je » ne pour. Je n'ai pas utilisé « je ne pour ne pas m'en souvenir ». Je n'ai pas utilisé « je ne pour ne pas m'en souvenir ». Je m'en souviens. Je ne vais pas dire que je ne me souviens pas, n'est-ce pas ? Je ne mens. Je n'ai pas faim.
Voilà. Je ne m'ameute pas, dit-il, je n'ameute pas, c'est le grand rassemblement au sujet de, quand il y a des obsèques. Et on va voir comment il prévoit les choses avec Mémorable, page 128.
Ma chaleur part par les fenêtres. Je ne pense pas à mal. J'ai des doigts. Je ne pensais pas avoir autant de doigts pour moi. Je ne sais pas si c'est mérité d'avoir autant de doigts. Je n'en vois pas l'utilité. Je les croise. Mes 10 doigts sont croisés les uns sur les autres. Je n'ai plus de doigts. Je ne m'en sers pas. J'ai la tête sur les épaules. Il a les doigts croisés et la tête sur les épaules. Il se sent bien. Je me sens bien dans cette position. Ma chaleur se perd pour toujours. Part par les fenêtres. Je gaspille. Je n'ai personne à qui parler. Je ne parle pas. Il semble dormir. Le chevalier s'éveille. Le jour se lève lentement. Le chevalier soudainement lève ses paupières, ouvre les yeux. Les yeux étaient fermés. Le chevalier dormait d'un sommeil tranquille. Le chevalier s'éveille. Il a ouvert soudainement les yeux pour un jour mémorable. S'éveille pour le jour ultime, le plus grand jour de sa vie. Il va vers la rencontre du jour merveilleux. Ouvre les yeux en un seul coup et se retrouve soudain dans le jour de l'événement majeur. C'est dormi, c'est pas dormi, c'est soudain. Le jour, ce jour, le chevalier rencontrera. Le chevalier est au tout début de la journée mémorable. Rien n'est encore prévu. Il a simplement ouvert les yeux alors qu'il dormait encore d'un sommeil tranquille.
Et le chevalier, c'est lui. Du moins, c'est ce que je lis, moi. Et il va avoir l'audace d'aller, après avoir montré un bourran qui a les doigts croisés, qui est couché sur son lit et qui se refroidit peu à peu, il arrive à nous faire sentir comment il voit l'abord. Page 134.
Je ne vire pas, je ne meurs pas, je ne m'énerve pas, je ne remonte pas, je ne me démonte pas, je ne vais pas vers le jour le plus historique tout nu et les yeux fermés. Je ne suis pas tout nu, je n'ai pas bu, je n'ai pas été imbibé, je n'ai pas été bu, je reste avec moi, j'ai fait du cheval, je ne suis pas un buvard, je ne me suis pas fait boire, j'ai pu faire du cheval, j'aurais au moins pu faire du cheval une fois, je sais rester sur le dos du cheval pendant que le cheval trotte, je suis cavalier, je me laisse glisser dans le ventre du train serpent qui se faufile, qui se laisse glisser, maintenant tout va aller très vite, maintenant tout est glissant.
Voilà, on retrouve l'image du train dans lequel il se love et c'est ainsi qu'il évoque la mort. Le temps passe, on va quand même lire des écrits poétiques qui datent de 2008 et qui sont extraits de L'Argent, page 197.
Pour voir. 197. Nous y voilà. L'argent est la valeur sublime. Il existe une valeur universelle, l'argent. L'argent est la référence des bonnes et des mauvaises pensées, des actes bons et des actes mauvais. L'argent est aimé. L'argent aimé donne la force de se mouvoir et de penser. La valeur sublime ne trompe pas, se donne à tous les instants, toujours disponible et toujours sûr. L'argent est la seule valeur totalement et immédiatement utilisable. L'argent donne de la valeur à tout ce qui est, à un geste, à une parole, répand le poids de chaque frémissement. Donner à la valeur sublime toute sa pensée et recevoir un guide sûr pour se comporter. Un comportement et une pensée précise sont attachés à la valeur universelle de l'argent. L'argent entraîne un apaisement de l'esprit. Je prends le métro. Je ne regarde pas s'il y a des contrôles. J'ai un ticket payé. J'ai passé mon ticket. Je suis honnête. Je suis en règle. Je suis riche d'honnêteté. Je n'ai pas peur. Je ne regarde rien. Je ne surveille rien. Je suis l'homme honnête. J'ai eu assez d'argent pour rentrer le ticket.
Voilà. Le monde de l'argent qui achète tout et qui domine. Thème bien connu, même un peu conventionnel, comme quoi Il faut se libérer du joug de l'argent. Mais ils ont fait quelque chose d'autre. C'est réduit au petit personnage très content de lui, parce que lui, il a son ticket, il a pu le payer, tandis qu'il y en a d'autres dans le bus qui n'ont pas de ticket. On va reprendre... c'est l'heure. Hein. C'est le moment de saluer donc ce qu'il dit. Et quand même... Je voudrais souligner que quand il parle des mots, en pas de mots, il dit que le mot « beauté » vient du mot « Mao ». Il le fait descendre de Mao. Galère, galère. Il est 11h56 à la pendule de Radio Galère. Et c'est le moment de passer la nouvelle chanson des Andes et l'indicatif peut-être pour annoncer. Voilà. Merci Sidi.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na mali sina we. Ningekuwa wa malaika.